Il est 19h. Merci à vous d'écouter Europe 1.
Notre programme de vaccination a complètement changé la donne en notre faveur. Certains estiment que nous pourrions aller plus vite, mais la fin est proche.
Et au bout du tunnel, il y a la lumière. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présente son plan de déconfinement progressif.
Le pays qui a enregistré un nombre record de décès avec plus de 120 000 morts voit la vague de contamination enfin reculée. Première décision, toutes les écoles rouvriront le 8 mars.
Le Royaume-Uni relâche la pression. Pendant ce temps, dans le sud de la France, on remet un coup de vis supplémentaire. La Côte d'Azur met en place un confinement inédit.
Et oui, il faudra rester à la maison les deux week-ends prochains. Les magasins, les commerces et les galeries de plus de 5000 mètres carrés, eux, devront rester fermés.
Voilà qui devrait satisfaire les tenants du tester, tracer, isoler, rentrer des classes à Bordeaux, Limoges ou encore Grenoble. Et une nouveauté, certains écoliers ont eu droit au premier test salivaire.
Rentrée des classes aussi à Lyon et première polémique entre le maire écolo qui retire la viande des cantines scolaires et le gouvernement.
Va-t-on éviter le pire avec l'Iran, toujours soupçonné de vouloir fabriquer la bombe atomique? Téhéran promet une réponse. On vous en parle avec notre expert des questions internationales, l'œil de Didier François dans ce journal.
Anissa Haddadi, après un lundi plutôt gris, ce sera un mardi tout à fait printanier.
Oui, c'est réellement demain, Isabelle, que la belle semaine va commencer avec une journée printanière qui sera le réel début de nombreuses belles journées. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La Grande-Bretagne fait donc un grand pas en avant vers le déconfinement. Boris Johnson vient de présenter son plan du jour d'après aux députés.
Une stratégie du déconfinement qui tient en 4 étapes, avec un Boris Johnson qui donne des dates, certes, mais à titre indicatif. On vous retrouve en direct, Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres, avec un Premier ministre qui néanmoins reste quand même très prudent.
Oui, car le but de Boris Johnson est que chaque levée de restriction soit irréversible. Le retour à la vie normale va donc se faire en 4 étapes, chacune espacée de 5 semaines. D'abord, c'est la réouverture des écoles le 8 mars et l'autorisation pour 6 personnes maximum de se réunir en extérieur. Deuxième étape, le 12 avril, avec la réouverture des commerces non essentiels et des terrasses des restaurants et des bars. Troisième étape, le 17 mai, ouverture complète des restaurants ainsi que des salles de concert, théâtres, cinéma et hôtel. Enfin, quatrième et dernière phase, le 21 juin, les mariages et événements de grande ampleur sont de nouveau autorisés. Boris Johnson est confiant, grâce à la vaccination, ce confinement devrait être le dernier.
Notre programme de vaccination a complètement changé la donne en notre faveur. Certains estiment que nous pourrions aller plus vite, et je les comprends. Mais la fin est proche. Une année gâchée va laisser place à un printemps et un été qui seront très différents et incomparablement meilleurs que notre situation actuelle.
17,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin au Royaume-Uni et le gouvernement a promis d'offrir une première injection à chaque adulte d'ici fin juillet.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. À l'instant, aux États-Unis, Joe Biden ordonne la mise en berne des drapeaux pour marquer le 500 000 de décès de morts du Covid aux États-Unis. En Allemagne, on est encore loin du déconfinement, mais les écoliers ont repris le chemin de l'école primaire dans 10 régions sur 16, et ce, malgré les craintes d'une troisième vague.
Et on est allé encore plus loin dans les Alpes-Maritimes, où l'on va expérimenter un confinement inédit.
Puisqu'une partie du département devra rester effectivement confinée du vendredi soir 18h jusqu'au lundi matin 6h, 2 week-ends de suite.
Les commerces et les magasins de plus de 5000 m² devront fermer. Seules les pharmacies et les commerces alimentaires pourront ouvrir. Les précisions de Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes.
La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Alors pour les 2 week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale. L'aire urbaine littorale, c'est cette zone qui s'étend de Menton à Théoul-sur-Mer et qui concentre près de 90% de la population du département, et zone qui est le principal lieu de contamination. Notre souci en mettant en place ce zonage a été de préserver autant que possible les populations des vallées déjà durement touchées par la tempête Alex. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h.
Le préfet des Alpes-Maritimes au micro de Frédéric Michel. La rentrée des classes pour la zone A, c'est-à-dire Bordeaux, Lyon ou encore Grenoble, avec une nouveauté, les tests salivaires pour enrayer l'épidémie dans les écoles.
Et dans les maternelles et les classes élémentaires, ces tests salivaires sont une bonne nouvelle pour les enfants. Forcément, c'est beaucoup moins désagréable que l'écouvillon dans le nez, Anne Le Gall.
Oui, concrètement, il faudra un accord écrit des parents et ensuite les élèves devront tout simplement cracher au moins 1 ml de salive dans un flacon en plastique. Cet échantillon sera ensuite récupéré par un laboratoire du secteur. Il sera analysé par méthode PCR, la même que pour les tests nasopharyngés, et le résultat sera rendu en 24 heures. Les parents et l'école en seront avertis très vite pour organiser l'isolement à la maison, voire éventuellement la fermeture des classes. Et si le test est positif, un criblage sera aussi effectué pour rechercher le variant anglais ou sud-africain par exemple. Ces tests salivaires ont démarré dès aujourd'hui à Saint-Étienne notamment, mais le dispositif va se déployer progressivement dans les écoles primaires dans lesquelles on suspecte une forte circulation du virus. Tout ceci se fait sur la base du volontariat. Ces dépistages sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, et l'objectif est de réaliser 50 000 à 80 000 tests salivaires par semaine dans les écoles avant éventuellement d'élargir le dispositif au collège et au lycée.
Anne Le Gall. À Ajaccio, la préfecture a été occupée brièvement par des jeunes nationalistes.
Nationalistes qui font partie d'un collectif de soutien aux détenus condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac, Jean-Sébastien Soldaini. Il demande que ces détenus puissent finir de purger leur peine en Corse.
Et c'est une vingtaine de personnes qui réussissent à se glisser derrière les grilles de la préfecture au moment où une voiture de service sort. Ils s'engouffrent dans le bâtiment par l'immense escalier de marbre, passent devant la stèle dédiée à Claude Erignac et tentent d'entrer par la force dans le bureau du préfet. C'est ce que précise le communiqué des autorités. C'est finalement dans le bureau du chef de la sécurité de l'île qu'ils se retrouvent. Parmi eux, il y a le fils d'Alain Ferrandi, l'un des deux détenus dont il réclame la levée du statut de DPS, détenu particulièrement signalé. Ce changement permettrait aux deux hommes condamnés à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac de bénéficier d'un transfert vers la Corse. Une action que soutient ouvertement le président autonomiste de la région, Gilles Simeoni, avocat d'Ivan Colonna à l'époque, qui rappelle une promesse du président de la République.
Il avait pris un engagement, Emmanuel Macron, non pas avec moi, mais il avait pris devant les familles de ses condamnés lorsqu'il était candidat, en disant que s'il était élu président de la République, le droit serait appliqué à ces personnes, et notamment leur droit au rapprochement. 3 ans après, malheureusement, cette promesse n'a pas été accomplie.
La vingtaine de jeunes Corses est sortie de la préfecture au bout 1h30 à pied après avoir été évacuée des bureaux par la force. Pas d'interpellation, mais la préfecture précise dans son communiqué que des plaintes seront déposées.
Jean-Sébastien Soldaini. Et puis après la condamnation à 25 ans de prison de Jonathan Daval, la famille de son épouse Alexia a réclamé plus de 800 000 euros de dommages et intérêts pour le meurtre de leur fille. La cour rendra sa décision le 25 mai.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h09, c'est la suite de votre journal. Christophe Lamarre et l'Iran qui a décidé d'accorder un sursis temporaire à la mission des inspecteurs de l'Agence pour l'énergie atomique, mission qui aurait dû prendre fin cette nuit.
L'organisme de contrôle des Nations Unies va donc pouvoir continuer à surveiller le programme nucléaire iranien pour une durée de 3 mois.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce délai consenti par Téhéran, c'est un geste de bonne volonté?
Alors c'est en tout cas un signal encourageant qui indique la volonté de l'Iran d'offrir une chance à une solution diplomatique pour revitaliser ce traité de non-prolifération nucléaire. On n'est pas tout à fait un retour à l'accord de 2015 qui interdit à la République islamique de se doter de l'arme atomique, loin de là, mais c'est une réponse positive aux ouvertures faites par la nouvelle administration américaine à la veille du week-end. Vous vous en souvenez, on en a parlé vendredi, le président Joe Biden a décidé de lever toutes les sanctions imposées à l'économie iranienne par Donald Trump à partir de 2018 lorsqu'il avait dénoncé le traité. Là aussi, on n'est pas sur un retour aux conditions originelles de l'accord, mais c'est une main tendue, une façon pour les États-Unis de faire un premier pas, ce qui semble finalement assez logique, vu que c'était eux qui avaient été à l'origine de la rupture. Le problème étant qu'entre-temps, le régime iranien s'est mis à la faute en augmentant ses stocks de matières fissiles, en multipliant le nombre de ses centrifugeuses et en poussant au-delà des limites acceptables l'enrichissement de son uranium. Et donc, on était sur une trajectoire dangereuse qui rapprochait la République islamique de la bombe atomique et augmentait le risque d'une intervention militaire pour l'empêcher d'y aboutir. Alors, et donc, il était temps, effectivement, d'arrêter l'escalade.
Alors, arrêter l'escalade, mais quelles seront donc, du coup, les prochaines étapes?
Alors, les États-Unis et l'Iran, donc maintenant 3 mois, on l'a dit, pour s'entendre sur les modalités et sur le cadre de négociation, dont l'objectif, ce sera de définir un calendrier selon lequel Washington lèvera ce qui reste de sanctions économiques au fur et à mesure que Téhéran remettra son programme nucléaire dans les clous du traité de 2015. C'est ce qu'on appelle un séquençage. En fait, ça ressemble beaucoup à ce jeu d'enfant, vous savez, dans la cour d'école où on s'approche pas à pas en disant chou-fleur, chou-fleur. Bon, ça peut prendre du temps et on n'est jamais totalement certain que ça ne se termine pas par une bagarre.
Bon, bah écoutez, merci Didier François, l'œil du Didier François, spécialiste des questions internationales dans le journal de 19h. Puis, puisque vous parliez de la cour de récré, bah c'était la rentrée des classes aujourd'hui. Pour les élèves de la zone A et à Lyon, cette rentrée, elle s'est faite à peu près normalement, sauf qu'à midi, eh bien, les élèves n'ont pas eu de viande et pour cause, le maire écologiste instaure le menu végétarien, sans viande en tout cas.
Hein. Indignation d'une partie de l'opposition, la droite lyonnaise et le gouvernement parlent de mesures idéologiques. On y est même allé très fort du côté de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce la politique morale et élitiste des Verts et donc de leur maire, Grégory Doucet. Sauf qu'en face, ben on a des arguments, Claudia Bertram.
Oui, le premier, c'est que c'est une façon de s'adapter au nouveau protocole sanitaire dans les écoles, car ça permet de faire manger tous les élèves plus rapidement. Deuxième argument avancé par la municipalité lyonnaise, c'est qu'elle applique exactement la même mesure que celle instaurée en mai au sortir du premier confinement. C'était alors un certain Gérard Collomb, ancien membre du gouvernement, qui était à la tête de la ville. Pour les Verts, il s'agit donc d'une fausse polémique et Sandra Regol, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, y voit une manœuvre politicienne.
Tout ceci est une vaste plaisanterie, pour le dire très poliment, mais ce qui se cache derrière est très inquiétant. Ce gouvernement semble déjà être en proie à une obsession qui est celle de la présidentielle et donc chercher à taper les écologistes. Je trouve ça déplorable.
Et certains au sein du gouvernement ne partagent pas vraiment les critiques de leurs collègues. Ce matin, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a joué, lui, l'apaisement.
Je fais des menus végétariens à mes propres enfants. Hier soir, c'était pas tricot épinard, pour ne pas vous cacher les choses. Donc, je suis absolument pas choqué et certainement pas scandalisé qu'on puisse proposer des repas sans viande ou sans poisson à l'école. La question, c'est quelle est la motivation sous-jacente. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas pour moi lieu à polémiquer.
De son côté, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, regrette ce qu'elle considère être un débat préhistorique. La polémique n'est donc pas au goût de tous les ministres.
Merci beaucoup Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Pas tricote épinard, hein, donc chez les Verrans hier soir. Coup de froid sur l'immobilier, la Banque de France va durcir les conditions de prêt aux particuliers.
Avec un encours global de 1150 milliards d'euros, l'institution estime que le seuil critique est atteint. La France est devenue le pays de la zone euro où les ménages sont le plus endettés, dit-elle. La Banque de France veut notamment obliger les banques à inclure l'assurance du prêt dans le taux d'effort, c'est-à-dire le montant que vous devez rembourser chaque mois.
Un mot de tennis, Christophe, vous adorez ça. Novak Djokovic reste le numéro 1 incontesté.
C'est gentil de me laisser de la place pour le dire. Le Serbe conforte sa place de numéro 1 mondial au classement ATP après sa victoire à l'Open d'Australie. Son dauphin s'appelle Daniil Medvedev, finaliste hier. Raphaël Nadal est troisième et le bon de la quinzaine est à mettre à l'actif de la surprise Karatsev. Il gagne 72 places. Et chez les femmes, parce que c'est important, Naomi Osaka, sacrée elle aussi ce week-end, revient à la deuxième place de la WTA derrière Ashley Barty. Coup de chapeau à Fiona Ferro, la française est 45e et nouvelle numéro 1 tricolore.
Je vous l'avais dit, il aime le tennis. C'était le journal de Christophe Lamarre que l'on retrouve demain dès 18h. Et maintenant, c'est la météo d'Anissa Haddadi. Anissa, ce sera nuageux le matin avant une journée que vous nous promettez lumineuse demain.
Oui, sur la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Cévennes. Dans toutes ces régions, le ciel est couvert en début de journée avec des risques de brouillard. Mais au fil des heures, le ciel va très nettement se dégager et c'est le soleil qui s'impose. Demain après-midi sur les trois quarts du pays, nous avons toujours des averses présentes sur les Cévennes. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Demain, ça sera un petit peu plus calme mais toujours très humide. Et puis dans le golfe du Lion, sur les Pyrénées et la Bretagne, nous avons du vent qui souffle fort. Alors sur le golfe du Lion, c'est le vent d'Otan. Et puis en Bretagne et sur les Pyrénées, c'est le vent du sud qui va souffler jusqu'à 80 km/h. La douceur est de retour demain avec 2 à 12 degrés du nord au sud le matin et 13 à 20 degrés dans l'après-midi. Nous aurons 13 degrés à Quimper, 16 à Nantes et Lille, 18 degrés pour Paris, 19 à Lyon et Besançon et 20 degrés pour Biarritz et Montluçon, la maximale. Et je vous le disais et je le maintiens, demain sera le début d'une longue série de très beaux jours.
Eh bien, nous vous remercions une nouvelle fois. Merci Anissa, on vous dit à demain.
À demain. Europe 1. Écoutez le monde changer.